Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Je capte plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive là? Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous? Ah oui, 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 ça y est. Mais c'est bien sûr, où avais-je la tête? Eh oui, la tête, eh oui. Ah oui, j'ai compris, ça y est, c'est l'heure de l'émission. Francis, c'est l'heure de l'émission.
Ah bah oui, je crois bien.
Raphaël Martin Guihenec, je sais que vous êtes un véritable globe-trotteur. Quel est le plus beau voyage, pour l'instant, que vous avez réalisé, le plus beau road trip? Quel est celui à vos yeux qui vous a le plus impressionné?
Le plus beau trip, c'est dur comme question pour commencer. Je pense que le plus beau que j'ai fait, c'est le chemin de Compostelle à pied en 2023, qui m'a changé la vie.
Alors Compostelle, allez, combien de kilomètres vous avez parcouru?
Moi j'ai fait environ 1700.
Bon et Raphaël, est-ce que tous ces kilomètres ça use les souliers ou pas?
Oui, ça use deux paires de souliers.
Deux paires, c'est pas beaucoup. Ça va, c'est raisonnable.
C'est
un budget acceptable.
Oui.
Eh bien, voilà des sacrées questions. Des questions qui vont nous amener à nous en poser plein d'autres durant les 56 minutes qui vont suivre. Mais avant d'entrer plus loin dans le détail avec vous, c'est tranquillement, très tranquillement, que nous allons avancer. Nous avons le temps, hein, Raphaël. Nous allons donner du temps au temps pour vous permettre de découvrir progressivement où nous sommes, pour permettre de découvrir à nos auditeurs où nous sommes. Allez, je vous en dis pas plus pour l'instant. On laisse planer le suspense. C'est parti, en route vers de nouvelles aventures.
Bonjour, vous savez où vous êtes? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Allegre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Au bip, vous laissez votre message.
Joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans l'étincelle dans la ville, chères auditrices, chers auditeurs. Content de vous retrouver. Raphaël Martin Guihenec. Je prononce bien?
Ouais.
Bonjour.
Bonjour.
À mes côtés, Francis. Francis, c'est plus facile à prononcer.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous retrouver, je dirais même que nous sommes très heureux de vous retrouver, nous, vous, car dans cette émission, il y a à mes côtés du renfort. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous sommes deux pour animer et réaliser cette émission. À mes côtés, Francis Carrie. Bienvenue dans l'étincelle dans la ville, Francis, pour votre première. Et avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous anime, et comme le veut la tradition dans cette émission, sachez que vous êtes maintenant, dorénavant, et tous les invités qui suivront, eh bien, tout simplement, les étincelles de cette émission durant ces 56 minutes. Voilà, c'est la tradition. Merci, bien sûr, d'avoir accepté de nous recevoir pour témoigner, car nous sommes en votre compagnie sur un sujet très particulier, un sujet qui pourrait toucher n'importe qui, finalement, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe ou la condition sociale. Nous sommes actuellement à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, dans le 13e arrondissement de Paris. Il s'agit du plus vaste hôpital en Europe installé au milieu des grands jardins, plus beaux les uns que les autres. D'ailleurs, on y est là, on avance tout doucement dans ces jardins, près de 90 bâtiments répartis sur 33 hectares. Si je vous raconte ça, c'est parce que c'est impressionnant ici. Hein. C'est grand. Vous êtes déjà perdu, Raphaël, dans cet hôpital ?
Oh, de nombreuses fois, surtout au début quand on ne connaît pas. C'est difficile de s'y repérer, mais une fois qu'on a l'habitude, ça va, on prend nos marques.
Voilà, donc un très grand hôpital avec des jardins partout, des centres de recherche, un centre hospitalier universitaire qui forme des étudiants à diverses disciplines médicales et paramédicales. Et pour la petite histoire, est-ce que vous le saviez, Raphaël ? Eh bien, autrefois, sur ce site, il y avait un arsenal qui servait autrefois de prison.
Eh bien ça, je ne savais pas.
Voilà, et bien maintenant, vous êtes au courant comme moi. Raphaël Martin-Guinec, vous êtes... Guinec, pardonnez-moi. Vous êtes membre de l'association ARTC. Alors, ça veut dire quoi, ARTC ?
C'est l'Association pour la recherche contre les tumeurs cérébrales. Et donc, l'objectif de cette association, c'est de financer au maximum des projets de recherche. Les cancers, il en existe plus d'une centaine. Le nombre de cancers n'est pas forcément immense, et donc il faut vraiment donner une chance aux patients de survivre.
Voilà, il faut des fonds, il faut de la recherche, exactement. Il faut des gens pour travailler là-dessus. D'ailleurs, en deuxième partie d'émission, on recevra le professeur Hidbey, qui est votre médecin finalement. C'est lui qui vous suit.
Absolument, c'est lui qui me suit depuis bientôt 6 ans.
Et vous nous raconterez d'ailleurs pourquoi il vous suit, c'est aussi là le truc. Et on verra qu'est-ce que le professeur Hidbey raconte, c'est très intéressant. Alors Francis, un petit résumé sur l'association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales. Alors, plus de détails si vous pouvez nous en donner.
Oui, je vais essayer de préciser ce qu'a dit Raphaël. Donc l'association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales, on dit aussi ARTC, elle a été créée par des médecins, des chercheurs, mais aussi des familles de patients pour faire avancer la recherche sur les tumeurs du cerveau. Bon, ça on le sait, son objectif principal, c'est le financement des études et des laboratoires sur le sujet, c'est ce que vous avez dit Raphaël, mais elle ne s'arrête pas là puisqu'elle est aussi destinée à aider de jeunes chercheurs, grâce à des bourses notamment, et elle agit aussi pour soutenir les malades et leurs proches. Alors, il reste quand même indispensable de mieux comprendre ces maladies afin de trouver des traitements plus efficaces, car il est important de le préciser, les tumeurs cérébrales, elles sont particulièrement difficiles à soigner parce que le cerveau est protégé par des mécanismes naturels qui limitent l'action de beaucoup de médicaments.
Raphaël Martin-Guinec, vous avez quelque chose à rajouter sur ce qu'on vient d'entendre ?
Oh, c'était très clair.
Alors, vous avez un engagement au sein de cette association, Raphaël, incroyable, pour, je dirais, faire avancer et mettre du carburant dans le moteur. Allez, on va dire ça comme ça. Vous menez plusieurs actions, dont une dont on va parler aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous a, bien sûr... demander de bien vouloir venir témoigner. Qu'est-ce qui fait que vous avez cet incroyable carburant ? C'est quoi le secret ?
Je n'ai pas l'impression d'avoir un carburant en particulier. Je pense que c'est aussi c'est une maladie qui donne la patate parce qu'on sait que c'est des maladies qui sont graves et donc ça permet un peu de prendre un peu de recul et de se dire justement qu'est-ce qui est important pour moi. Et ce qui est important pour moi, c'est d'aider la RTC et donc de lever de l'argent pour elle et pour aider peut-être les prochains patients, les prochains boursiers à travailler sur ces tumeurs du cerveau qui sont encore tueuses, quoi.
On va en parler d'ailleurs de l'action que vous allez mener, on va en parler au fur et à mesure de cette émission. Là, nous sommes, je le répète, aujourd'hui dans l'enceinte de l'hôpital où vous êtes traité, un endroit très particulier car c'est en quelque sorte votre QG quand même. Hein. Vous y passez du temps ici.
J'y passe du temps, bien sûr. C'est là où je rencontre, du coup, j'ai la plupart de mes rendez-vous médicaux qui sont nombreux. Voilà, donc j'y passe du temps, effectivement.
Alors, c'est votre point zéro quelque part, c'est ici que vous êtes traité, c'est ici que votre pathologie est prise en charge, une pathologie dont vous allez nous dire deux mots.
Alors, ma pathologie, c'est un astrocytome, donc c'est une tumeur de grade 2 qui évolue progressivement. Voilà, et c'est, C'est et ça s'appelle un astrocytome parce que ça fait un peu des petites étoiles dans la tête.
En tout cas, il s'en passe des choses avec vous. Allez, on continue à avancer si vous me le permettez. Parce que vous m'avez dit, les jardins de la Salpêtrière, là, ce sont de très beaux jardins. On est en train de se diriger. C'est vrai que si vous avez l'occasion, les auditeurs qui nous écoutent, auditrices, d'un jour d'aller faire un petit tour, vous avez tout à fait la possibilité de vous balader. Hein. C'est un très très bel hôpital avec des jardins magnifiques. Il y a même des dessins, il y a des graphes, il y a tout ce qu'on veut ici. Eh ben, n'hésitez pas. Mais on va aller un peu plus loin. Voilà. Vous vous concentrez pour développer cette association. Oui, on traverse. Oui. Allons-y. Voilà. Vous vous concentrez pour développer cette association en menant des actions que vous avez évoquées. Compostelle, ça faisait déjà partie de votre parcours, de votre histoire?
Alors non, ça ne faisait pas partie de ce parcours-là. Là, je suis en train de faire ma première action, qui est du coup Rennes-Istanbul à vélo, en passant par plein d'hôpitaux et en rencontrant le plus de professionnels possible. Voilà, c'est la première action. Et il y a beaucoup d'autres actions qui sont en cours par d'autres gens, des concerts, des traversées de l'Atlantique, des courses à pied, des marathons. C'est une association très 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 dynamique qui propose beaucoup de choses et qui laisse à ses adhérents la manière de contribuer.
Une sacrée bande de fragadas, dites-moi, il va falloir que vous m'en disiez un petit peu plus. Vous m'avez parlé l'autre jour d'un de vos adhérents qui, lui, fait des traversées, c'est ça, en voilier?
Voilà, ouais, c'est Nicolas Cousy qui, justement, s'était engagé sur la Mini Transat. Et voilà, c'est encore en cours. Voilà.
Alors, en préparant cette émission, on vous a demandé de choisir les pauses musicales. Et oui. On peut dire que vous avez été éclectique. Alors, on voit ça avec vous, Francis.
Ah oui, Raphaël est un vrai mélomane de ce qu'on a compris. D'ailleurs, on commence tout de suite avec un petit voyage en Californie, une balade légère et jazzy en 1993. À cette époque, le rap et la culture hip-hop règnent en maître absolu sur la côte ouest des États-Unis. J'ai même envie de dire sur la majeure partie des États-Unis. Alors, Festo, Opio, TJ et A+.
Là, il va falloir me traduire, hein, je comprends rien du tout. Hein.
Les membres du groupe qu'on va écouter samplent un morceau de jazz de 1974, Heather de Billy Cobham. Ils le mettent dans un saladier, accélèrent le rythme, y ajoutent des sonorités du style boom-bap, le genre d'instrumental le plus répandu à l'époque. Et voilà, le groupe Souls of Mischief nous embarque sur son titre qui porte le même nom que l'album dont il est issu, 93 Till Infinity, qu'on s'écoute tout de suite sur Aligre FM et c'est dans l'étincelle dans la ville.
Yo, what's up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief crew. I'm chilling with my man Festo, my man A+, and my man Bo. You know he's dope. Yeah. And right now, you know, we're just maxing in the studio. We're hailing from East Oakland, California, and sometimes it gets a little hectic out there. But right now, you know, we gonna up you on how we just chill.
Dollar seven digits, call up Bridget, her man's a midget. Plus he got fringe, yo, I can dig it. Here's a 40 swigging, you know it's frigid. I got him chilling in the cooler, break out the ruler. Damn, that's the fattest dog I ever seen. The weather's keen in Cali, getting weed, it makes it feel like Maui. Now we feel the good vibrations. So many females, so much inspiration.
From 93. casual. You know, he's chillin'.
Yo, Pat Love, he gotta be chillin'.
Jay Biz, you know, he's chillin'.
Hey, yo, man, my man Snoop is chillin', man.
Yo, Mike G, you know, he's here chillin'.
Yeah, my man Mike P, you know, he gotta chill.
Yo, the funky homo sapien is chillin'.
Hey, my man Domino, yo, he's chillin'.
Sur la messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Voilà, on vient de s'écouter 93 Till Infinity du groupe Souls of Mischief, toujours sur Aligre FM dans l'étincelle dans la ville. Alors Raphaël, vous aimez le rap ? Mais qu'est-ce qu'il signifie ce morceau pour vous ? Un morceau qui est plus vieux que vous en plus de ça.
Alors effectivement, c'est un morceau qui est plus vieux que moi, donc 1993. Ce morceau-là, je trouve qu'il est il est un peu nostalgique. Ça fait très longtemps que j'écoute et j'ai plein de super souvenirs sur ce morceau-là.
Et pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle que nous sommes à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement de Paris. Vous restez bien avec nous pour cette deuxième partie de cette émission en compagnie de nos invités Raphaël Martin Guénoc, j'y arriverai ou j'y arriverai pas, qui nous a fait la gentillesse de nous recevoir. Alors Raphaël, le diagnostic tombe un jour pour vous, tout aurait pu s'arrêter là, sauf que, et vous nous l'avez un peu évoqué, c'est l'effet contraire qui se passe. On a l'impression que vous montez d'un cran. Il n'y a plus seulement l'idée de partir à la découverte de nouveaux territoires comme vous le faisiez auparavant, mais l'idée que vous avez l'envie d'avoir envie de donner encore plus de sens à ce qui vous arrive. Vous avez la soif d'accomplir de véritables performances. Moi, je parle de performance, hein, parce que ce que vous allez nous décrire, ce que vous avez commencé à nous raconter, on est quand même dans le domaine de la performance. Mais vous avez un double rôle, celui de militant pour la cause et celui de porteur de la maladie. Et vous avez décidé de rallier avec un vélo cargo la Turquie depuis la Bretagne en passant par Paris. Aujourd'hui, nous sommes avec vous à Paris. Et en plus, vous n'y allez pas de main morte. La ligne directe, c'est 3000 km. Et là, vous vous êtes dit, tiens, moi, je vais en faire 5000 avec des tours et des détours. Vous pouvez nous raconter, nous en dire plus ? Pourquoi tout ça ?
Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est simplement que moi, j'avais envie de faire connaître, du coup, ma maladie, mon association, tous ses tenants et ses aboutissants. Et donc, le meilleur moyen de le faire connaître, c'était du coup de laisser parler les acteurs qui travaillent sur cette maladie. Donc, je pense aux professeurs qui vont se faire de la recherche, je pense à tous les chercheurs que je vais rencontrer, etc., dans nombreux instituts en Europe.
Parce qu'il y a un programme de stop and go de prévu.
Exactement. Donc, il y en a qui sont encore en négociation. Mais il y en a déjà 5 ou 6 qui sont prévus, donc à travers plein de pays différents, etc.
Alors c'est des stop and go que vous avez calés, mais c'est ce qui vous fait aussi faire des détours. Vous avez dit tiens, tel hôpital je vais y aller, mais oh il y a 500 bandes de plus, c'est pas grave, je vais les faire.
Ah ben c'est vraiment ça ce qui m'a motivé, c'est le fait de dire où est-ce que je peux trouver des gens intéressants, surtout que j'ai à travers mon expérience de patient, j'ai constaté d'une solidarité incroyable entre les médecins, les patients, les chercheurs, et ça c'est un truc qui mérite d'être célébré, et donc ça ne me dérange pas de faire 200 km de plus pour faire une interview.
Ça veut dire que vous avez déjà des points d'arrêt de prévu. On peut peut-être en dire deux petits mots, des villes, des pays. Vous avez peut-être déjà le roadbook qui est rédigé en partie.
Alors le roadbook est en partie rédigé, tout à fait. Donc le prochain arrêt, c'est à Lyon, où je vais pareil rencontrer un neuro-oncologue. Ensuite, il y aura Genève normalement, puis Turin. Après, je suis encore en négociation pour la Slovénie, puis il y a la Croatie, il y aura l'Autriche, il y aura aussi la Slovaquie. Bref, j'en ai plein encore d'autres qui sont prévus et qu'il faudra découvrir du coup sur mes réseaux.
Si j'ai bien compris, voilà. Sur votre trajet, vous allez faire des stops un peu particuliers. On a un peu l'impression que c'est presque des arrêts au stand dans cette course, non ?
Ah, c'est un peu ça, ouais. Dans tous les cas, je me suis engagé avec mon neuro-oncologue de faire régulièrement des prises de sang, des choses comme ça. Et donc, je pense que je les ferai à ces moments-là. Et puis après, il y a aussi quand même le côté touristique où c'est plein de visites de pays que je connais pas du tout. Et je pense que j'aurais pas eu l'occasion d'aller les voir si je m'étais pas dit que j'allais les voir.
En tout cas, vous soulevez les montagnes et vous allez traverser les montagnes. Vous nous avez parlé de la Suisse là-bas. Alors, on va quand même, allez, on peut le dire, vous allez faire avec un vélo cargo. Racontez-nous l'histoire du vélo cargo. Pourquoi un vélo cargo ?
Alors, le vélo cargo, c'est pas le vélo que je voulais prendre à la base, mais c'était le vélo qu'il me fallait vraiment. Donc, il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, au moment où je préparais ce périple, donc il y a un peu moins de un an, j'étais en chimiothérapie. Et donc, avec une chimiothérapie, puis une protonthérapie, il fallait un truc électrique. Et donc ensuite j'ai rencontré Vincent de Gaillon Cycle et on s'est tout de suite très entendu.
Alors on donne des détails, c'est qui Vincent? On va faire même mieux, on va faire sa pub.
Voilà, et donc Vincent c'est un des cofondateurs de Gaillon Cycle et une personne du coup qui est remarquable et qui me prête avec son entreprise un vélo pour aller jusqu'au bout du monde ou en tout cas le bout de l'Europe.
Raphaël, Francis, si vous le permettez, nous allons faire à nouveau une deuxième petite halte avec une deuxième pause musicale que vous avez choisi, Raphaël. Et là on passe du coq à l'âne, après le rap américain on passe à la musique électronique.
Et oui, en effet, et le titre qui va suivre, on le doit à un Français, Cocorico. Nous sommes dans les années 2000, le morceau est issu de l'album Flash Mob, avec un clip qui est une parfaite illustration du nom de ce morceau. Alors il est filmé avec une caméra plantée au-dessus d'une cabine de toilette, on découvre de nombreuses personnes qui entrent et qui sortent, et qui font des choses bien différentes. Certains pleurent, d'autres exultent de joie, certains méditent, d'autres s'embrassent. Alors bien sûr, je vous rassure, il y en a qui font aussi leurs besoins. Parfois de manière particulière, en se positionnant par exemple face à la chasse d'eau. Et en réalité, il traduit juste ce moment d'intimité qui permet d'être soi-même et donc différent de ce qu'on peut être une fois sorti de ses toilettes. Et c'est un peu dans cette logique que Vitalik nomme son track, ou son son, Second Life. C'est dans l'étincelle dans la ville sur Aligre FM. We'll be right back.
sur la messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Voilà, on vient d'entendre Second Life par le producteur Vitalik. Alors, Raphaël, votre seconde vie à vous, où est-ce que vous la trouvez ?
Bah, je pense que ma seconde vie, moi, je l'ai retrouvée dans les voyages. Donc, je parlais tout à l'heure du chemin de Saint-Jacques. C'est aussi passé par le chemin du Shikoku en 2024, où j'ai fait la même chose que Saint-Jacques, mais pour les bouddhistes. Voilà, et donc c'était au Japon, c'est le tour d'une île, de la quatrième plus grande île du Japon, donc c'est 1300 km, en passant par 88 temples, et dans chaque temple, il faut récupérer une calligraphie dessinée par un moine.
En tout cas ici, c'est pas des temples, mais c'est des bâtiments destinés à traiter les patients. Je rappelle à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre que nous sommes à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière en votre compagnie. Cet hôpital qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris. On va retrouver le professeur Idbé. Professeur Idbé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des tumeurs cérébrales et à ce sujet, vous avez expliqué qu'on découvre tous les ans pratiquement près de 5000 nouvelles tumeurs en France. C'est dû à quoi ?
Alors, les tumeurs cérébrales, et en particulier les tumeurs cérébrales malignes, les cancers du cerveau les plus agressifs, hein, environ 2500 à 3500 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. Il y a d'autres types de tumeurs cérébrales, hein, ce qui explique parfois les variations de nombre. Alors, la cause des tumeurs cérébrales, malheureusement, à l'heure actuelle, elle est inconnue pour la grande majorité des patients. On connaît deux principales causes. La première, c'est des facteurs génétiques, héréditaires. Il y a certaines familles où tous les patients sont touchés par des cancers et des tumeurs cérébrales. Alors ces cas-là, ça représente à peu près 1% des cas. La deuxième cause pour laquelle, la deuxième cause qu'on connaît, c'est la radiothérapie, paradoxalement, qui est à la fois un traitement, mais certains enfants, pendant leur jeunesse, présente une leucémie et pour éviter que cette leucémie rechute au niveau cérébral, au niveau du cerveau, on leur fait une radiothérapie préventive et à l'âge adulte, ils peuvent développer des cancers cérébraux et en particulier des tumeurs gliales. Cette deuxième cause, ça représente aussi 1%. Donc vous voyez que dans la très grande majorité des cas, dans plus de 98% des cas, la cause reste à ce jour encore inconnue.
Alors, nous sommes à l'Institut de neurologie où vous êtes installé. Alors, c'est quoi finalement, à quoi ça sert l'Institut de neurologie ?
Alors, l'Institut de neurologie, hein, comme vous l'avez dit en préambule, est localisé à la Pitié-Salpêtrière, hein, dont une des spécialités est la neurologie. Alors, l'Institut de neurologie regroupe l'ensemble ou la grande majorité des services de neurologie de l'hôpital, de la Pitié-Salpêtrière. Alors, il y a des services qui sont spécialisés dans la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, par exemple. Alors, je ne pourrais malheureusement pas être exhaustif en les citant tous. Et puis, il y a le service de neuro-oncologie qui, lui, s'occupe des patients qui ont des tumeurs cérébrales. Alors là, c'est pour la prise en charge médicale des patients. Et à la Pitié-Salpêtrière, il y a aussi un centre de recherche qui s'appelle l'Institut du cerveau, où là, les chercheurs et les médecins essayent de comprendre ces maladies neurologiques et essayent de développer des nouveaux traitements.
Alors justement, vous nous parlez des traitements. On en est où aujourd'hui en matière de traitement dans ce domaine ?
Alors la recherche avance. Elle avance malheureusement trop lentement. Mais les progrès, il existe des progrès, il y a des progrès qui ont été faits ces dernières années, et puis on a des progrès en ligne de mire. Alors parmi les progrès, parmi les traitements, alors le traitement des patients qui ont des tumeurs cérébrales, même s'il n'est pas homogène et identique chez tous les patients, repose sur plusieurs types de traitements. La chirurgie, alors nos collègues chirurgiens font des progrès, ils essaient d'opérer au maximum avec le plus de sécurité possible. Le deuxième traitement majeur des tumeurs cérébrales, c'est la radiothérapie. Là aussi, nos collègues radiothérapeutes développent des outils de plus en plus précis pour traiter la tumeur en épargnant au maximum les patients des séquelles potentielles de la radiothérapie. Puis il y a les médicaments, la chimiothérapie. Vous connaissez les chimiothérapies qu'on dit conventionnelles, hein, qui font des progrès aussi dans les tumeurs cérébrales. Et puis il y a des chimiothérapies qu'on dit plus intelligentes, des molécules des thérapies moléculaires ciblées qui vont viser uniquement la cellule tumorale et épargner les cellules saines du cerveau. Donc ça, c'est pour les médicaments, la chimiothérapie. Et puis, parmi les autres médicaments en cours de développement, il y a l'immunothérapie, hein, comme vous le savez, à transformer le pronostic de certains cancers. Dans les tumeurs cérébrales, on doit encore l'optimiser. Et puis enfin, il y a des modalités thérapeutiques plus récentes, hein, comme l'électrothérapie, où on peut traiter les tumeurs cérébrales avec des champs électriques. Donc la recherche avance, les progrès sont lents, mais la lumière est en ligne de mire.
Eh bien, puisque vous parlez de lumière, je voudrais parler d'une autre lumière, une étincelle qui brille à côté de moi et à côté de nous. Raphaël Martin Guéhenneux, qui est un de vos patients. Alors, vous êtes militant de la cause, bien sûr, à la RTC, l'Association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales, comme l'est Raphaël. Quelle est votre action au sein de l'association ?
Alors, au sein de l'association, je suis membre. L'association soutient également les projets de recherche, dont certains que je porte. Et puis, on participe également à toutes les initiatives et à toutes les manifestations organisées par la RTC, comme le départ de Raphaël de Rennes. Et lors de ces événements, on essaie d'apporter un éclairage médical et scientifique à l'organisation de ces événements.
Alors sur ce coup-là, vous avez une double fonction, professeur. Vous êtes à la fois vous traitez Raphaël d'un point de vue régulier, mais là, sur son opération qui va se dérouler depuis Rennes en vélo cargo jusqu'à Istanbul, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui n'est pas recommandé? Il a droit de quoi faire, il a droit de pas quoi faire?
Alors, Raphaël se lance des défis. Alors, Raphaël est quelqu'un d'extrêmement sérieux, hein, dans sa prise en charge médicale. On sait tous que pour toute personne, ce périple est une aventure, hein, une aventure avec bien sûr des risques, hein, même si on est bien portant, hein, et qu'on n'a pas de traitement. Alors Raphaël ne s'est pas levé un matin en disant je vais aller faire le Rennes-Istanbul. Ça fait un an, hein, qu'il travaille, qu'il prépare les différentes étapes, qu'il discute avec l'ensemble des membres de la RTC, qu'il discute avec moi. Hein, il a bien conscience que s'il y a un problème médical, eh bien on est là, hein, et il faut essayer de réagir le plus rapidement possible. On a bien sûr vérifié avant son départ et il s'est soumis à tous les examens que son état de santé le permettait. Donc voilà un petit peu comment on a organisé le voyage avec Raphaël.
Quand il vous en a parlé pour la première fois, ça vous a fait quel effet? Parce que c'est pas une mince affaire, hein. 5000 km à vélo, c'est quand même une grosse distance.
Alors oui, c'est vrai que ça paraissait vraiment comme un défi, hein, comme un défi. Et bien le défi, on ne savait pas qu'on serait à ce stade aujourd'hui, un an après, avec un périple extrêmement bien organisé, avec des sponsors, des soutiens associatifs, des soutiens médiatiques également. Donc voilà, c'est la jeunesse aussi de Raphaël, hein, qui ont rendu ce projet possible. Et donc au fil des mois, au fil des semaines, eh bien cette idée, ce défi, bah, s'est concrétisé progressivement. Et Raphaël a mis les briques les unes au-dessus des autres. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, avoir son vélo et nous tous derrière lui.
Et oui, vous êtes tous derrière lui. Je vous remercie beaucoup, professeur Ribé. Je sais que votre temps est compté. On va vous laisser continuer votre route. Alors, ça ne sera pas à vélo pour vous. C'est dans les couloirs de votre service. Et puis, j'imagine que Raphaël va vous tenir au courant au fur et à mesure qu'il avance.
Absolument, merci à vous aussi de vous intéresser à nous, à la neuro-oncologie, aux patients qui ont des tumeurs cérébrales. Ça, bien sûr, grâce à Raphaël. Absolument, Raphaël va nous tenir au courant, mais on va également se tenir au courant, hein, du périple de Raphaël avec les nouveaux outils qu'il nous a aussi appris à maîtriser.
Merci beaucoup, professeur Ibé. Et puis, bonne continuation. Et ça a été une rencontre avec lui, bien sûr, j'imagine, Raphaël.
Alors oui, ça a été une rencontre. C'est lui qui me suit depuis le début de mon cancer. Et il m'a montré, justement, il m'a engagé à partir, ou en tout cas, il m'a encouragé et m'a donné les conditions nécessaires à ce que ça se passe bien.
Il n'y a aucune contre-indication à ce que vous fassiez toutes ces grandes distances. Au contraire ?
Alors, il n'y a pas de contre-indication, mais il y a quand même certaines règles qu'il faut poser. Donc, le fait de respecter les traitements, le fait de faire des prises de sang, le fait de ne pas prendre de risques insurmontables, d'être sérieux dans la démarche, de ne pas se lancer à l'œil, quoi.
En termes de durée de vélo, alors, je voulais en parler tout à l'heure, j'en parle maintenant. Votre vélo, il a quand même une petite assistance, hein?
Alors complètement, il a une belle assistance électrique.
Et assistante aussi, une batterie.
Et voilà, c'est ça. J'ai même deux batteries et deux chargeurs. Et donc mon but, c'est de les recharger chaque soir. Et ça peut me donner jusqu'à 180 km ou 170 km d'autonomie.
Vous avez déclaré récemment « je suis un peu fatigué, mais je n'ai pas de douleur ». En d'autres termes, l'exercice physique... Pour vous, pas de problème?
Ah bah oui, non, au contraire, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir de pouvoir rouler, et je pense que c'est bon pour la maladie, et puis surtout c'est bon pour la tête.
Alors on a parlé du Shikoku que j'ai découvert grâce à vous, je ne savais pas que l'île de Shikoku existait, avec ses 88 temples. On a parlé des chemins de Compostelle, là on parle d'un Rennes-Paris, Paris-Istanbul. Hey, Raphaël, qu'est-ce que vous nous préparez pour le coup d'après?
Oh, je sais pas encore ce que je vais faire, mais enfin, j'ai quelques idées déjà, mais il faudra me réinterviewer.
Ok, alors, on a aussi, en termes de logistique, des problématiques à régler quand on fait ce que vous faites. Tous les soirs, il faut trouver un endroit pour dormir, il faut trouver aussi des endroits pour manger, pour se laver, pour se détendre. Alors, racontez-nous, vous m'avez parlé de Warm Shower. J'irai dormir chez vous ce soir, c'est en quelque sorte un peu ça, là, cette application.
Voilà, c'est ça, c'est un équivalent de couch surfing pour ceux qui connaissent, mais spécialisé dans les vélos. Et donc ça permet de rencontrer des gens tout au long de mon parcours, de partager un repas avec eux en général, et puis mes aventures, et puis aussi leur expliquer ce que c'est un cancer, que c'est pas la fin de la vie, qu'on peut très bien continuer à faire des aventures.
Alors, cette opération, de cette démonstration que vous allez nous faire jusqu'à Istanbul, elle a aussi, alors il va falloir bien le préciser, bien le marteler, pour but de récolter des fonds, ça c'est important. Comment on procède? Comment ça se passe? Quel message vous voulez faire passer pour que ça puisse recueillir des fonds?
Alors, pour accéder à la cagnotte, c'est très facile. C'est un lien HelloAsso qui est retrouvable sur mes réseaux. Le but de ce périple, c'est justement de montrer que c'est possible de faire des grandes choses, des trucs difficiles, comme 5000 bornes à vélo, alors qu'on a un cancer incurable, etc. Et sous traitement. Cet argent, il va financer du coup les recherches. Moi, je n'y touche pas. Moi, je dis que je finançais ma partie du voyage sur mes propres deniers. Voilà, donc c'est que pour la science. La cagnotte, et c'est possible de défiscaliser avec. Voilà.
Oui, effectivement. Après, c'est une association reconnue d'utilité publique et d'intérêt général. La RTC, donc, qui a démarré en 1992 de la part de la volonté des familles et des patients, évidemment, soutient la recherche sur les tumeurs cérébrales. Et c'est aussi pour ça que vous menez cette action. Et donc, il suffit d'aller sur HelloAsso, ARTC, j'imagine.
Alors, c'est HelloAsso ARTC. Et sinon, plus facile, depuis mes réseaux sociaux, il y a un lien, il y a juste à cliquer, donc c'est Où est Raph sur Insta et Facebook.
Alors, Où est Raph sur Instagram et Facebook, on va vous suivre, vous allez nous tenir au courant, c'est ça?
Exactement, le but c'est de publier très régulièrement, mon quotidien avec un journal de bord, mais aussi des interviews de professionnels de santé qui vulgarisent très bien les cancers. Les cancers du cerveau, j'entends. Voilà, et puis des belles rencontres que je fais sur le chemin.
Raphaël, Martin, Guy, Henoc, on va parler aussi des partenaires, des sponsors, parce que cette opération, c'est aussi un petit peu eux qui sont dans la bataille avec vous. Alors ne vous gênez pas, allez-y, racontez-nous. Là, je vois que vous avez un blouson orange. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Orange? Ils vous ont offert quoi?
Alors, j'ai un blouson orange parce que il m'accompagne dans mon aventure avec Okali, qui est aussi une petite entreprise rennaise de reconditionnement de téléphone. Et donc, ils sont associés pour m'offrir un téléphone et un forfait international. Donc,
vous aurez bien besoin.
Ah bah, j'aurais bien besoin. Et puis surtout, c'est ce qui va me permettre de rester en lien avec vous et puis avec ma famille, etc.
On raconte les autres. Alors, il y a eu un marchand d'articles de sport, je crois.
Oui, un bien connu. Donc, c'est les trois magasins de Rennes de Decathlon qui m'ont vêtu des pieds à la tête pour cette aventure.
Avec la tente fournie en prime.
Avec une tente aussi pour les campings. Ça va être mon mode d'hébergement principal, surtout dans les Balkans.
Alors, il y a eu aussi une institution régionale qui vous a filé un coup de main.
Alors oui, il y en a plusieurs. Il y a Rennes Métropole, donc la ville de Rennes, qui m'ont beaucoup aidé à rencontrer des gens, faire des rencontres, qui m'ont aidé aussi pour le départ la semaine dernière. On a eu également un élu qui est venu pour souhaiter du coup une bonne aventure.
Pour vous soutenir tout simplement. Et puis une agence de communication qui vous a fait vos designs, ce qu'on appelle la DA, la direction artistique.
Alors leur action s'est pas limitée à ça, mais c'est surtout qu'ils m'ont accompagné sur tout ce qui était réseaux sociaux.
On la cite ?
Alors c'est La Contrée, à Rennes et à Paris, ils sont trop forts, ils sont vraiment trop forts. Et sans eux, je ne serais pas à 5% de là où je suis.
Voilà, on a fait le tour. Il en reste encore, allez, on continue à les citer.
Ouais, alors ensuite, il y a du coup Galian Cycle, qui me prête ses vélos jusqu'au bout du monde.
Alors lui, il est installé où ça ?
Alors, il est aussi installé à Rennes, mais il fait des livraisons par internet si on regarde.
Voilà, parce qu'on l'a précisé, mais il faut le repréciser encore mieux. C'est avec un vélo cargo, c'est-à-dire un vélo qui est équipé d'une caisse à l'avant, où vous allez mettre tout votre matériel, que vous allez réaliser ce road trip, donc vélo cargo fourni par ce sponsor.
Exactement, et c'est un sponsor qui a aussi la particularité de fabriquer, enfin d'assembler et d'avoir tout en France, et d'avoir une majorité de pièces françaises. Je crois que sur le dernier modèle, ça doit être 86%. Et le but, c'est à terme de faire 100%, mais on n'y est pas encore.
Voilà, donc on a fait la pub de tous vos sponsors, et c'est normal, et on les remercie bien évidemment.
Ah, c'est grâce à eux que je peux partir, et franchement, humainement, ils ont tous été incroyables. Et alors, il y a aussi la Maïf, que je tiens à remercier.
La compagnie d'assurance.
Exactement. Le pôle, c'est le pôle 35 qui m'accompagne beaucoup.
Voilà, on les a tous cités. Et avant de se quitter, car l'étincelle dans la ville va bientôt se terminer, Raphaël, il y a les copains, la famille, ça c'est vachement important. Hein. Ils étaient tous présents en Bretagne à votre départ de Rennes. J'imagine qu'ils vont vous encourager, vous suivre, qu'il va y avoir des tas d'échanges. Alors il y a Instagram, il y a aussi Facebook, il y a tout ça. Mais il y aura aussi, j'imagine, des FaceTime, des échanges téléphoniques, des choses comme ça.
Ah bah, il y en a, c'est encore mieux, ils vont me rejoindre sur la route pour faire des bouts de chemin avec moi.
Alors, un objectif, vous l'avez annoncé clairement, recueillir au minimum 15 000 euros.
Exactement, le but c'est de financer une bourse pour un chercheur qui sera défini par le comité scientifique de l'association. C'est pas pour moi, ce sera pour les prochains, mais je pense que c'est une belle cause qui mérite d'être soutenue.
C'est une belle cause qui mérite d'être soutenue. Eh bien, vous avez bien raison de le signaler. Avant de nous quitter, Raphaël, je voudrais vous remercier notre invité, le professeur Hidbeck. Merci d'avoir répondu présent en nous accueillant. Un vrai moment de convivialité au milieu de ces jardins. Pardonnez-moi, je vous ai un peu secoué au démarrage. Je voulais qu'on avance. Et puis, on a préféré se mettre sur un banc. C'était plus simple au soleil dans ces merveilleux jardins de la Pitié-Salpêtrière. Voilà, j'en ai appris des choses aujourd'hui. Et puis j'espère que nos auditeurs ont appris aussi beaucoup de choses. Vous pouvez retrouver l'adresse mail, les podcasts de toutes les étincelles dans la ville quand vous voulez, sur Acast, sur Spotify, YouTube, ainsi que toutes les autres émissions d'Aligre réalisées par mes camarades. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Avant de nous quitter, je précise qu'AligriFM est avant tout un espace d'expression, de partage, de rencontre, d'échange, animé par un collectif de gestionnaires, de journalistes, d'animateurs, de réalisateurs techniques libres, indépendants et bénévoles. Un grand merci à vous, Francis.
Un grand merci à vous pour m'avoir fait découvrir tout cet univers, de m'avoir accueilli sur AligriFM et d'avoir rencontré Raphaël.
Ça s'est bien passé cette première ?
Merveilleux, je pense que je reviendrai pour une deuxième.
Avec grand plaisir. Un grand merci à toutes les équipes de techniciens chargées de la réalisation des émissions. René Clancy, Yasmine Bendali, Jade Jiang, Armand Gury, Philippe Denefort, Renaud de Poussin de Wilt, Enrico Maestro Giovanni et Bruno Mandé, son chef d'orchestre, et Didier Robert. Merci à et Stéphanie Malaret et Gaspard Proudhon. Alors, tout au long de l'année, au micro d'AligriFM, nous recueillons des paroles en prenant le temps de penser, de scruter, de contempler le monde dans toutes ses composantes. Ça va ? On a eu le temps de faire ce qu'on voulait et vous avez eu le temps de raconter tout ce que vous vouliez. Il y a encore quelque chose à rajouter, Raphaël ?
Non. Je pense qu'on a fait un premier tour. Après, le reste, ça sera à découvrir sur mes réseaux.
Alors justement, vous nous tenez bien au courant, Raphaël. AligriFM, c'est sur votre poste de radio en FM, sur le 93.1, c'est sur le DAB, en radio numérique, et c'est aussi sur le web, partout sur vos écrans. Je vous encourage à faire un petit tour sur le site d'AligriFM. C'est une radio associative, une radio qui fête ses 45 ans, et si vous souhaitez soutenir AligriFM, pour cela, rien de plus simple, eh bien, il suffit d'aller sur le site d'AligriFM. Voilà, et puis bien sûr, on le redit une dernière fois, pour soutenir la RTC, l'association de recherche
sur les tumeurs cérébrales.
Voilà, et bien il suffit de faire des dons, il n'y a pas plus simple, on appuie sur un petit bouton, on sort sa carte bleue et on y va. Voilà. Merci à notre partenaire Le Moment qui réalise l'émission du même nom diffusée sur notre antenne. Il reste tout simplement maintenant à prendre congé de vous. Et vous nous tenez au courant tous. Hein. Au revoir Francis, salut.
Au revoir.
Monsieur Raphaël, au revoir.
Au revoir.
Et pour ma part, on se retrouve lundi prochain à 9h avec grand plaisir, avec Francis pour une nouvelle étincelle dans la ville. C'était depuis l'hôpital de la Salpêtrière, La Pitié, dans le 13e arrondissement de Paris, que nous avons réalisé cette émission. On y a été merveilleusement bien accueillis. Et donc, l'étincelle dans la ville, eh ben, pour aujourd'hui, c'est terminé. Thank you.
Les brouillages, de sinistres mémoires ont repris.
En cas de brouillage, cherchez une wire sur votre cadran.
À Lille FM 93.1.
On peut changer la fréquence en une demi-heure.